Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Jusqu'au déconfinement total, notre émission Par ici des sorties n'a plus lieu d'être, mais la musique reste présente. Personnellement, je ne peux penser la période pascale sans Johann Sebastian Bach, celui que nos amis allemands appellent aussi le cinquième évangéliste. Donc, parlons de l'œuvre que vous allez écouter sur plusieurs émissions. Le clavier bien tempéré. Nous allons retrouver Bach et sa femme Anna Magdalena à Leipzig, où entre-temps il est cantor à la Thomasschule. Alors, en 1729, c'est la première représentation de la Passion selon saint Matthieu. Au même moment, se produit un changement très intéressant dans la vie professionnelle de Bach. Son ancien concurrent pour l'obtention du poste de cantor à Saint-Thomas, Schott, est nommé cantor à Gotha. Bach est appelé à lui succéder à la direction du Schottische Collegium Musicum, qui deviendra donc le Bachische Collegium Musicum. Cette nouvelle activité compensera l'affaiblissement de celle de musicien d'église et son indifférence croissante pour ses fonctions officielles. Ce sera surtout un excellent banc d'essai musical, l'occasion d'un contact régulier avec un vrai public. Le Collegium Musicum de Leipzig, dont il prend la direction, est une des premières organisations de concerts publics d'Allemagne, fondée par Telemann en 1702. C'est une association d'étudiants, bons musiciens, auxquels se sont joints des musiciens professionnels. Ils forment un ensemble instrumental de bonne qualité, base de l'orchestre de l'opéra, et donne des concerts hebdomadaires. On trouve les Collegia Musica dans toute l'Allemagne. Et sur un plan général, ils jouent un rôle capital dans l'essor de la culture musicale bourgeoise et la formation d'un répertoire nouveau, indépendant de l'église, de l'opéra et de la cour. Ils sont vraiment à l'origine des sociétés de concerts de la seconde moitié du siècle. Pour le cantor Mallarmé, cette nouvelle activité est un bol d'air artistique. Une heureuse évasion vers des horizons musicaux qui échappent aux autorités municipales, religieuses et universitaires. C'est aussi la possibilité d'aborder librement tous les styles de musique. Wilhelm Friedemann et Carl-Philipp Emmanuel font office d'assistants. Ils assurent les cours à Saint-Thomas, font travailler les élèves privés, copient des partitions, etc. De plus, Bach a constitué un stock de musique d'église suffisant pour des années pour assurer ses obligations. Il souhaite faire autre chose, il ne composera presque plus de cantates. Désormais, Bach paraît décidé à éviter les conflits et les fureurs qui en découlent. Il pratiquera quand ce sera nécessaire, ce qu'il appelle l'évasion intérieure. Pour la première fois de sa vie, à l'âge de 45 ans, Bach conquiert une indépendance relative. Très relative, bien sûr, car en ce temps-là, l'indépendance conduit à la misère. À la maison, le climat s'en trouve changé. Les petites soirées musicales réunissant autour d'une table famille, élèves et amis vont devenir plus fréquentes. Soirée musicale où sûrement le diptyque en la mineure de clavier bien tempéré a été joué. Une tonalité virile, énergique, voilà ce que représente pour Bach la mineure. Le prélude bondit avec légèreté dans un rythme ternaire, avant que la fugue à quatre fois, de nouveau comme un concerto grosso, une fugue très longue, très dense, s'impose solidement, en finissant sur une pédale de la qui ne peut être exécutée au pédalier, un pédalier qui est absent du piano, mais présent à l'orgue ou au clavecin. Oui, chose curieuse. On sait que Bach possédait des clavecins à deux claviers plus pédaliers. Donc, allons écouter La mineure par Glenn Gould. écouter le prélude et fugue en la mineure par Glenn Gould, de clavier bien tempéré, volume 1. Et nous avons Bach qui est bien installé à Leipzig. Alors, on va peut-être s'intéresser un peu à quelle est la famille Bach, de quoi est-elle constituée. En 1731, les Bach font baptiser leur 15e enfant. À 30 ans, Anna Magdalena a mis au monde 8 enfants, dont 4 seulement sont en vie. La famille est maintenant imposante. Il y a Catherine Dorothea, 22 ans, Wilhelm Friedemann, 20 ans, Carl Philipp Emanuel, 17 ans, Gottfried Bernhard, 16 ans, puis un trou. Et alors, Gottfried Heinrich, 7 ans, Juliana Frederica, 5 ans, Regina Johanna, 2 ans, et la dernière née, Christiana Dorothea. Carl Philipp Emanuel rentre à son tour à l'université et en 1733, son cher Fried est le premier à quitter la maison. Avec l'appui du père, il est nommé organiste à Dresde. Un autre enfant naît encore en 1737 et deux pensionnaires, neveux de Bach, venant prendre des cours, rejoignent la tablée. Mine de rien, ça fait des bouches à nourrir tous les jours. Puis, Carl Philipp Emanuel reçoit une offre d'engagement comme claveciniste du prince héritier de Prusse. Ce jeune prince, âgé de 22 ans, futur Frédéric II, entretient un orchestre plus ou moins clandestin de 17 musiciens. La musique, comme la philosophie et la poésie, est réprouvée par le roi Sergent, son père Frédéric, et qui Frédéric est lui-même flûtiste et il a su entourer de musiciens de très grand talent, dont Quantz, qui est flûtiste, Johann Jahn, violoniste. Pour Carl Philipp Emanuel, c'est une situation d'avenir et il ne la laisse pas passer. Il y va, il fonce. Entre-temps, Johann Sebastian a fort à faire avec son fils, Gottfried Bernhard, un génie adoré par son père, mais qui cumule déboires et dettes que son père éponge à chaque fois en espérant le rendre à la raison. Son chagrin est immense quand il apprend que son fils est mort à Iéna le 27 mai 1739 à 24 ans seulement. De quoi est-il mort ? D'une fièvre, indique-t-on pour toute précision. On imagine le désarroi de Johann Sebastian devant cet irréparable gâchis. Il a déjà bien vieilli et se sent vieillir encore. Mais comme toujours, il est fort, il reprend le dessus, il travaille à une quatrième partie du clavier, Ubung, à une suite du clavier bien tempéré, il travaille à l'art de la fugue. En 1742, le clavier Ubung numéro 4 sort de presse, et Anna Magdalena met au monde une fille, 20e enfant de Johann Sebastian, après une grossesse très pénible dont elle ne se remettra jamais. L'activité de Bach se ralentit chaque année. La poursuite de la guerre rend les voyages difficiles. Il ne peut pas aller voir son fils Carl Philipp Emanuel, qui s'est marié et vient d'avoir son premier enfant, dont Bach est le parrain. En effet, Carl Philipp Emanuel est installé à Berlin, où est allé Frédéric II, mais la Saxe de Johann Sebastian, étant l'allié de l'Autriche et donc adversaire de la Prusse de Frédéric II, et donc il ne peut pas aller à Berlin, tout déplacement est empêché. Wilhelm Friedemann ne se marie toujours pas, mais il est devenu un grand organiste et est nommé à Halle, hors concours, en 1746. En revanche, la vue de Johann Sebastian donne des inquiétudes. Les premiers effets de la cataracte commencent à se faire sentir. Cela ne facilite pas un travail qui lui tient à cœur plus que tout autre. Il commence en effet à recopier les 18 chorales de la messe en si et il a en chantier la délicate entreprise « L'art de la fugue ». En 1747, la Prusse ayant retrouvé la paix depuis le traité de Dresde, l'entrevue de Bach et de Frédéric II peut enfin être organisée. Édifiée sur une hauteur dans les bois entourant Potsdam, le château de Sanssouci est pour Frédéric le lieu de l'amitié, de la musique. Ici, c'est la joie, comme dans la tonalité de si bémol majeur, qui, dans les deux livres du clavier bien tempéré, n'est que charme et inaltérable gaieté. Prélude en allègre toccata miniature et fugue virile qui garde le sourire et la bonne humeur. Alors, écoutons si bémol majeur par Friedrich Gulda. Nous avons écouté le prélude et fugue par Friedrich Gulda en si bémol majeur du clavier bien tempéré, premier livre de Bach. Et nous avons laissé Bach en route pour Potsdam, où il va enfin pouvoir rencontrer son fils, Carl Philipp Emanuel, son petit-fils et le roi de Prusse, Frédéric II. Alors, messieurs, le vieux Bach vient d'arriver. Selon Forkel, c'est en ces termes que le jeune roi de Prusse annonce la nouvelle toute fraîche à ses musiciens, avec une émotion qui ne parvient pas à dissimuler. Le petit concert n'aura pas lieu ce soir. Frédéric a posé sa flûte. Il désire que le vieux Bach, père de Carl Philipp Emanuel Bach, son claveciniste, lui ça, soit amené sans tarder. Le roi à 35 ans. Il est à l'apogée de son règne. Puissant, admiré, heureux dans ses entreprises, il est le modèle du despote éclairé de l'ère des Lumières. Mais, à l'instant où il accueillera le cantor de Leipzig dans l'éblouissant décor de sa nouvelle résidence de Sanssouci, il sera sans doute plus frappé que son visiteur, car celui-ci est précédé d'une réputation impressionnante. L'homme qui vient d'arriver à Potsdam est âgé de 62 ans, mais il en porte davantage. Il est usé par une vie de travail, de lutte et de souffrance. Cet organiste légendaire vient de notre monde, que Frédéric II, pur produit de l'Aufklärung, ne peut pas comprendre ni même imaginer. Massif et grave, il est l'héritier de 4 générations d'artisans musiciens, formés sur le tas, dans le respect de leur art et de Dieu. Partout, on admire sa virtuosité phénoménale, sa science infaillible. Savoir-faire séculaire, somme des acquisitions musicales d'un long passé. Mais bien peu ont le pressentiment que cet improvisateur de génie est un visionnaire dont le regard embrasse le passé et le futur de l'histoire de la musique. La vie de Bach s'est écoulée en marge d'une époque de profond changement dans la société européenne, entre l'apogée du règne de Louis XIV et de celui de Frédéric II. Mais Bach est magnifiquement étranger à ce que représentent l'un et l'autre. Il représente la pérennité d'une culture. On s'en apercevra bien plus tard. Une vie austère et souvent dramatique a été consacrée au travail et à sa famille, dans le voisinage constant de la mort. À 6 ans, Bach a vu mourir un de ses frères. À 9 ans, sa mère. À 10 ans, son père. Il perdra sa première femme et 11 enfants. 10 de ceux-ci sont morts avant l'âge de 5 ans. Le berceau a fait partie du mobilier. C'était un objet d'inquiétude et d'espoir. Le fils aîné du second mariage, Gottfried Heinrich, est simple d'esprit. Un autre enfant, Johann Gottfried Bernhard, a tourné mal. Johann Sebastian Bach a vu la réussite complète, sociale et matérielle que d'un seul enfant, Carl-Philipp Emanuel. Pourtant, cette vie donne une impression de plénitude, de force tranquille, d'intelligence et souvent de bonheur, en dépit des souffrances et des déceptions. En 1749, les Bach ont encore la joie de marier leur fille Lieschen à un élève très cher, Johann Christoph Altnikol. Lieschen sera la seule mariée des filles Bach. La métaphore du foyer familial a rarement été aussi juste. Les fils aînés viennent souvent voir leur père à Leipzig. D'innombrables auditions ont lieu dans l'appartement Bach. Devenu presque aveugle, Bach a heureusement fini de rassembler les éléments de la messe en si, grandiose monument spirituel, voire œcuménique, dédié à la postérité. La gravure de l'art de la fugue, autre pièce maîtresse du testament musical de Bach, est entreprise dans le courant de l'année. Bach sent que le temps presse. La famille se désespère en voyant le roc si fragilisé par la vue déclinante. Pour Anna Magdalena, c'est une douleur inconsolable. Pour Jean-Sébastien lui-même, une douleur profonde, mais contenue et positive, comme ce prélude et fugue en si bémol mineur, tonalité que Bach avait déjà utilisée dans un duo de cantates qui s'appelle « Je remets mon âme entre tes mains ». Écoutons le prélude et fugue en si bémol mineur, Passatis Richter.